Salut et bienvenue à tous dans Archéociné, épisode 25, Archéociné avec Bloud. Salut Bloud.
Salut Bruce. Et salut à tous.
Et encore enregistrement en plein confinement. Encore.
Exact.
Mais on va s'évader un petit peu avec ce nouvel épisode, épisode 25. Et un petit film sympatoche.
Pas super connu, je pense, en plus.
Ouais, mais bon, avec feu Sean Connery, hein, puisque on est le 8 décembre et il nous a quittés il y a quelques jours de ça, malheureusement. Allez, on attaque tout de suite dans le vif du sujet.
En 1855, l'Angleterre et la France faisaient la guerre à la Russie sur le front de Crimée. La solde des troupes anglaises était en or. Une fois par mois, 25 000 livres en or étaient chargés dans des coffres-forts à l'intérieur de la firme londonienne de la Huddleston & Bradford Bank et transportés par des gardes armés et sûrs à la gare de chemin de fer. Le convoi ne suivait pas de route établie ni d'horaire fixe. À la gare, l'or était chargé dans le fourgon à marchandises du train de Folkestone pour son acheminement vers la côte et de là vers la Crimée. Les coffres-forts étaient eux-mêmes placés dans deux coffres Chubb, spécialement fabriqués pour la banque, en acier trempé de 3/4 pouce d'épaisseur. Chacun de ces deux coffres pesait 294 kilos. Et chacun d'eux comportait deux serrures, ce qui impliquait deux clés. Donc, 4 clés au total. Pour plus de sécurité, chaque clé était individuellement protégée. Deux clés étaient confiées au responsable ferroviaire qui les gardait dans son bureau. La troisième était la possession de M. Edgar Trent, président de la Huddleston & Bradford Bank. Et la quatrième clé était remise à M. Henry Fowler, directeur de la Huddleston & Bradford Bank. La présence de tant d'or en un seul endroit suscitait naturellement la convoitise de la pègre britannique. Mais en 1855, il n'y avait jamais eu de vol à bord d'un train en marche.
Bon, c'est vrai qu'il y a une longue narration en introduction de ce film-là. Film qui s'intitule donc La Grande Attaque du Train d'Or. The First Great Train Robbery. C'est un film britannique réalisé par Michael Crichton, sorti en 79, qui est adapté du roman de Michael Crichton himself, qui s'appelle donc Un Train d'Or pour la Crimée, et qui est lui-même inspiré du grand vol d'or de 1855 au Royaume-Uni lors de la guerre de Crimée. On verra un petit peu plus en détail sur les faits historiques vite fait un peu plus loin dans l'épisode. Donc voilà, bon, on a une grande narration en introduction et puis après une musique sympa de Jerry Goldsmith. Donc vas-y Bloud, c'est quoi un petit peu l'histoire de ce film?
Alors donc c'est Edward Pierce donc qui veut réaliser un super braquage donc en attaquant un train rempli de 25 000 livres en lingots d'or. Donc il s'est dit tiens je vais essayer de le faire mais pendant que le train est en train de faire le voyage quoi en marche.
Ouais.
Et donc, à l'époque. Ça se passe en 1855.
Ouais puis c'était du jamais vu. Hein.
Ouais.
Alors donc la réalisation hein, c'est Michael Crichton hein, le scénario également musique Bloud.
Jerry Goldsmith, comme tu l'as dit il y a quelques secondes.
Bah fameux... ouais, c'est vrai. Photographie de Geoffrey Hemsworth. On a la production de John Foreman. Voilà. Filmé en Panavision. Durée de 110 minutes. Voilà. Et bah tiens, allez, on va commencer à s'écouter par un premier extrait.
Beau boulot. Pas mal, même si c'est moi qui le dis. Vous êtes de bonne mine.
Oui, c'est bon.
Tout au doigté.
Vous venez de le voir, non?
Ou est-ce que ça s'est fait si vite que vous n'avez rien vu?
J'ai tout vu. Vous l'avez crocheté?
Non, à la main. Les oiseaux mouches. Il y aurait un coup à faire?
J'aurais peut-être une ou deux petites choses.
Des petites choses. Ça ferait pas de la fausse?
Possible.
Mais du risque gros?
Risque très gros.
À la plume ou à la clé?
Clé.
Cire ou escamotage?
Cire.
C'est pas vous qui avez fait le coup de Berkleins?
Berkleins? De l'amateurisme.
Comme vous dites, de l'amateurisme. Qui s'en tire les doigts dans le nez avec 2000 guinées.
Non. Non, je pense à une affaire plus importante.
À la cire. Et en voltige. Alors, je suis votre homme. Il n'y a pas plus rapide fabricant de passe-partout à Londres.
C'est ce qu'on raconte.
Et on opère comment?
D'abord, il faut repérer les habitudes d'un vertu.
Voilà, c'est. On assiste à la toute première rencontre de Edward Pierce et de Robert Haggar. Et donc, du coup, Pierce a surpris Haggar, enfin, du moins, a vu sa petite manigance pour détrousser une dame. Qu'est-ce qu'on peut dire avant? Oui, j'aime bien le film, vous verrez, parce que on est en pleine époque victorienne. La même
et
époque
on
où.
Un peu parfois avec Jack l'Éventreur, justement, dans les rues.
Ouais, Jack l'Éventreur, et puis aussi, Sherlock Holmes, etc. Ça fait ouais, vraiment voilà. Cette bonne ambiance-là. Avec les bas-fonds de Londres, et puis aussi un peu les maisons un peu plus cossues et bourgeoises. Alors, tiens, bah vas-y, parle-nous un peu plus de Michael Crichton, Blaud.
Alors, donc, il est né en 42 et il est mort en 2008. Donc, c'est un écrivain américain, donc de science-fiction, scénariste, producteur, bien sûr, de films. Il a fait plein de romans. Donc, il y a par exemple, il y a Jurassic Park, il y a Sphère, État d'urgence. Et puis, donc, il est souvent considéré comme l'un des pionniers du techno-thriller. Et donc, sinon, au cours de sa carrière, il a utilisé les pseudonymes de Jeffrey Hudson et John Lange. Donc, la plupart de ses films, c'est adapté de ses romans, ce qui est finalement un peu plus facile, je pense. Donc, il y a par exemple Le Mystère d'Andromède, donc c'est un film de science-fiction de Robert Wise en 71. Opération Clandestine, c'est un thriller de Blake Edwards en 72. Donc, dedans, il y a James Coburn. L'Homme Terminal, film de science-fiction aussi, donc de Mike Hodges. En 71-12, Soleil Levant, donc ça c'est un policier là avec Sean Connery et Wesley Snipes, c'était en 93. Jurassic Park, bien sûr, de Steven Spielberg en 93. Il y a Jeff Goldblum dedans. Harcèlement, c'est un thriller de Barry Levinson. Sorti en 94 avec Michael Douglas et Demi Moore. Je l'ai pas vu ce film-là. Et à Congo, ouais, puis... en 95, c'est un truc d'aventure, ça, c'est de Frank Marshall. Le Monde Perdu, toujours de Steven Spielberg, en 97. Sphère de Barry Levinson en 98, c'est avec Dustin Hoffman et Sharon Stone. Celui-là aussi, je ne l'ai jamais vu. Le 13e guerrier, film d'aventure, c'est en 99, ça, avec Antonio Banderas. Prisonnier du temps de Richard Donner, c'est un film de science-fiction, c'est en 2003, ça, avec Paul Walker.
Ouais, et puis après, et donc, on a les bests de ces romans, hein. Au même titre que les films que tu viens de citer, on retrouve un Congo, Sphère, Jurassic Park, Soleil Levant, Prisonnier du Temps, Urgence, la série, ouais. Alors, en tant que réalisateur, il a réalisé Monde Ouest, hein, Westworld, Mort Suspecte, Looker, Runaway, et la série TV Urgence. Et Westworld, du coup, ils se sont inspirés du film, puisque quand la série est sortie, il était déjà décédé.
Ouais.
Et puis, le petit truc marrant pour finir avec lui, c'est qu'il y a un dinosaure de la famille des Ankylosauridae, le Crichtonosaurus, qui a été nommé en l'honneur de l'auteur. Pour ces deux, en lien avec ses romans de Jurassic Park et Le Monde Perdu.
Voilà. C'est vérité, hein.
Ah oui. Allez, on se fait péter un extrait. Ça, c'est quand il chope la première clé.
John, voulez-vous jeter un coup d'œil à la cave?
Comme t'as lancé l'extrait, je pense.
Oui, j'ai dit, c'est quand il chope la première clé.
Quand tu parles, après, là, t'as une voix de merde.
John, voulez-vous jeter un coup d'œil à la cave, je vous prie?
Oui, madame.
John! John, où êtes-vous, John?
Je suis en bas, monsieur.
Mais qu'est-ce que vous faites en bas, cette heure-ci?
Madame a cru entendre un bruit.
Madame pourra toujours entendre des bruits. Allez, remontez, j'ai besoin de vous. J'ai égaré ma meilleure pipe.
Certainement, monsieur.
Va échapper belle. Il y a de quoi devenir cardiaque, moi je vous le dis. La lumière. Tenez. C'est pas notre maudite clé, ça, trop poussiéreuse. Personne ne s'est servi de cette caroube depuis des années. Bizarre tout de même. J'en ai jamais vu de pareil. Aussi petite. C'est pas une clé, ça. C'est certainement une agrafe pour une espèce de babiole de bonne femme. Attention. C'est pas de ma faute si vous avez des pépins. Merde, quoi, c'est pas moi qui ai eu cette idée, c'est vous. Et ça? Ça, c'est la clé d'un coffre. Chum.
Montrez-moi le relevé d'empreinte.
Eh ben, éclairez-moi. Vacherie.
Ouais, c'était l'extrait où... ils se sont introduits dans la demeure du directeur de la banque et qui sont en train, dans la cave, remplie de bouteilles, chercher la clé qu'ils finissent par trouver. Donc, après ce petit extrait, au niveau de la distrib, dans les rôles principaux, on retrouve Sean Connery, hein, qui joue Edward Pierce. On a aussi Blaude.
Donald Sutherland qui joue Robert Haggard.
Voilà, Leslie Ann Down qui joue Myriam. Après, c'est des rôles secondaires. On a Malcolm Ferris qui joue Henry Fowler. Alan Webb qui joue Edgar Trent. Pamela Salem, Emily Trend. Et pour finir...
On peut dire Wayne Sleep quand même, hein, pour Lily Languille.
Ouais. Allez, on passe à Sean Connery. Sir Sean Connery, parce qu'il avait été...
anobli.
Ouais, par la reine. Acteur, producteur britannique, hein, il a produit des films aussi. Il est né en 1930 et il nous a quittés il y a quelques jours, cette année en 2020. 90 balais. Sa carrière, elle a décollé littéralement après avoir incarné l'agent secret 007, hein, James Bond.
Ah bon?
Ouais. En 62. Dans James Bond contre Dr. No de Terence Young. Il avait d'abord refusé le rôle en plus. Et pour la grande attaque du train d'or. Et Christian, il est revenu le voir pour le convaincre en l'invitant à relire le film puis le script. Et donc Connery a fini par accepter.
Heureusement. Hein.
Bon, au niveau de Sean Connery, après, mon top filmo perso, moi, c'est les Incorruptibles, hein, Indiana Jones, c'est la dernière croisade, Le Nom de la Rose, les James Bond, hein, tous, dans lesquels il joue, Rock, À la poursuite d'Octobre Rouge.
Et moi, j'ajoute Pas de printemps pour Marnie.
Ouais. Et puis, à noter que, alors là, pour ce film-là, entre autres, le doublage VF est réalisé par Bernard Deran, qui a doublé Connery trois fois seulement, notamment dans la Ligue des Justiciers Extraordinaires hein, en 2003. Mais sinon, il est doublé la plupart du temps par Jean-Claude Michel, 33 ou 35 fois, je crois.
Ouais, je sais plus.
Hormis les James Bond, hein, où c'est Jean-Pierre Duclos. Tous les James Bond, c'est Jean-Pierre Duclos. Après, le reste des films, hein, bah, donc du coup, Rock, À la poursuite d'Octobre Rouge, etc. C'est donc Bernard Deran. Et du coup, si on connaît sa voix en VO, les doubleurs, ils ont pratiquement le même timbre de voix en VF. Ce qui est sympa d'avoir fait ça, je trouve. Allez, on s'écoute le troisième extrait.
Jones.
John, j'éprouve beaucoup le plaisir de faire votre connaissance.
Oh, c'est réciproque.
Tu es nervoso?
Non, j'aurais préféré qu'on fasse mieux connaissance avant...
Oh, mio caro, tu es nervoso. Tu as tort d'avoir peur. Je me chargerai de toutes les petites choses. Et je me charge, bien sûr, de la grosse... Oh, toi alors, que tu es robuste.
Oui, effectivement, j'ai fait un peu de sport, quand j'étais jeune, bien sûr.
Oh, mais tu es encore jeune. Tu es un vrai léone.
J'enlève ça également.
Mais ce sera meilleur, non? Quand nous serons ventre contre ventre. La vibration des épidermes.
C'est à la romaine, hein, c'est ça?
Oui, mio tesoro. Ma cosa è?
Une clé. Mais je n'en sais pas.
Oh non, non, il faut rien. Rien du tout entre nous.
Ah oui.
Et maintenant, assieds-toi sur le letto.
Le quoi?
Le letto. Le lit. Le lit! Ah. Oh, c'est si excitant. Tu, on dit quoi chez toi? Tu enflammes, moi.
Mais, madame, vous notez pas vos propres effets?
Ah, mes effets? Mais si, bien sûr. Dans un petit moment. Un momentino.
Oh, faites vite, madame.
Si, si, io vengo. Oh my god! La polizia! La police! C'est la merda!
Attention, la police! La police!
La police! La police! La police! La police!
Venez vite, tenez vite, pour l'amour du ciel! Je viens, je viens! La police? Mais où est-elle?
À l'étage!
Mais je suis perdu, ciel,
bien sûr. Passons par la porte dérobée.
Ouais, donc là, c'était le deuxième extrait où il ils arrivent à prendre la seconde clé, parce qu'il faut qu'ils foisonnent d'idées et qu'ils recèlent de subterfuges divers et variés pour pouvoir arriver à dérober les clés sans que les propriétaires ne s'en doutent. C'est là où
toute
la difficulté. Allez, on poursuit. Donc du coup, Donald Sutherland Blaude.
Alors, donc lui, il est né en 1935, c'est un acteur canadien. Son premier grand rôle donc de sa carrière internationale, donc c'est un film de guerre, Les 12 salopards de 67. Donc c'est un film de Robert Aldrich. Et donc toi, apparemment, tu as quelques films que t'aimes bien avec lui.
Ouais, comme tu viens de le dire, on a Les 12 salopards. On a aussi De l'or pour les braves. D'ailleurs, je crois qu'il y a Clint Eastwood dans ce film-là.
Ouais.
Hamburger Film Sandwich.
De l'or pour les braves, et après, ça a repris Les Morphalous, si je me trompe pas.
Ouais, mais Les Morphalous, c'est Belmondo. Ouais, mais...
ouais, d'accord, mais c'est la même histoire. Mais c'est d'abord De l'or pour
les braves. Ah oui, oui. Hamburger Film Sandwich, ça, c'est un truc complètement délirant. On a aussi L'invasion des profanateurs, MASH, Johnny s'en va en guerre, Space Cowboy, Hunger Games, hein, on le voit dans tous les films de la saga, et dernièrement dans Ad Astra. Et au niveau des séries, on peut le retrouver dans Commander in Chief, et puis Trust. Et dans quelques épisodes aussi, donc au début de sa carrière... dans Le Saint, en 65-66, et on le voit aussi dans Chapemelon et Bottes de Cuir, en 67.
Ah, cool. Et comme tout le monde le sait, c'est le père de Kiefer, donc celui qui fait Jack Bauer dans 24. De toute façon, quand on voit Jack Bauer, tout de suite, tu vois la tête, c'est flagrant que c'est le fils, quoi.
Et on finit avec... Leslie Ann Down, elle est née en 54.
La plus belle du film.
Ouais. Elle est née en 54, c'est une actrice anglaise. Et elle a débuté sa carrière en 69. Elle a joué dans un film de la Hammer. Hein. Pour rappel, la Hammer, c'était la boîte de prod de films d'horreur en Angleterre.
Et
on
en avait parlé, ouais.
En 71, ouais, elle a fait la comtesse Dracula de Peter Sasdy. Et donc la Hammer, entre les années 50-60, mais c'est le seul film de la Hammer qu'elle ait fait. Parce qu'après, on va la retrouver dans des productions américaines. On peut la voir dans Frissons d'outre-tombe en 73. Film d'épouvante de Kevin Connor avec Peter Cushing.
Ouais, quand même.
Ouais. Et on peut la voir également dans la comédie Quand la panthère rose s'en mêle de Black Edwards en 76 aux côtés de Peter Sellers.
Elle fait une espionne russe. Mais elle n'a pas un grand rôle, mais c'est marrant quand même de la.
Donc, je disais au tout début, l'intrigue du film, l'histoire du film est inspirée de faits réels. Hein. Le grand vol d'or de 1855, qui a eu lieu dans la nuit du 15 mai 1855. En fait, il y a trois banques londoniennes qui transportaient des lingots d'or et des pièces d'or depuis la gare de London Bridge vers Paris. Et au total, 91 kilos d'or d'une valeur de 12 000 livres, hein, l'équivalent entre 2,6 et 4 millions de livres au début du 21e siècle, ont été volés sur la route de Folkestone avant de pouvoir être embarqués par bateau à travers la Manche pour le port de Boulogne-sur-Mer. Et donc, en fait, le gang à l'origine du coup a été démantelé à la suite de l'arrestation d'Edouard Agar. Et de l'un de ses complices, alors qu'il tentait de faire passer un faux chèque, ce qui a permis de remonter jusqu'à William Pierce, avec qui Agar avait monté donc l'opération. Et alors, il servait au financement de la guerre de Crimée, qui a eu lieu entre 1853 et 56, qui opposait donc l'Empire russe à une coalition formée de l'Empire ottoman, de la France, du Royaume-Uni et du Royaume de Sardaigne. Voilà, bon, c'était pour un petit peu recadrer l'effet historique, se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc c'est une histoire vraie, mais bon, après c'est romancé, après la fin et tout, on voit que la fin ça colle plus du tout avec la réalité, quoi. Allez, on va s'écouter un autre extrait.
Vous auriez pas pu trouver quelque chose de plus difficile?
Vous dites le fin du fin, ce ne serait pas vrai?
Si, si, je suis un as. Mais ça, c'est une vacherie du diable. Et j'en parle savamment, j'ai guetté 3 jours de rang. Mais regardez, il faut se faufiler entre tous ces bourgs, grimper les marches au vu et au su des dames et des quidames, et puis se couler dans le bureau vitré, où on voit que vous. C'est une folie. Autant aller pique-niquer tout de suite en prison. Qu'est-ce qui vous fait tellement reluire là-haut?
2 clés de coffre Chubb. Elles sont dans l'armoire verte, à droite.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, vos clés?
C'est 2 clés. Mais il se trouve qu'il me les faut.
On est pourtant associés. Remarquez, si vous voulez me faire comprendre que vous n'avez pas confiance...
Aucune confiance.
Ouais. On a épongé 2 patrons banquiers. Là, on se trouve dans une gare de Londres. Qu'est-ce qu'il y a dans les gares? Les trains qui vont... Mais Vérole de Moine, c'est l'or pour la Crimée que... Vous êtes complètement tapé. Un vol dans un train en marche, c'est infaisable.
Pourquoi?
Ben, ça n'a jamais été fait, non?
Non, jamais.
L'or pour le fond de Russie. Vérole de Moine. C'est des envois de 25 000 livres, n'est-ce pas? 25 000 livres sur quoi? 25 000 livres raides. Vérole de Moine.
Vous êtes prêt à faire le coup?
Si je suis prêt, ouais. Où il est, le mouflet?
Là. Voici votre Mais fils.
J'en ai pas de fils.
Louisa dit que c'est votre fils.
Louisa, elle n'en sait rien, la chienne. C'est lui, vraiment? C'est pas mon fils. Il est 100 fois trop moche pour être mon fils. Sa carotte, c'est quoi?
Une guinée.
Si c'est mon fils, il faut qu'il la mérite.
Voilà, donc là, c'est quand il prospecte les 2 dernières clés, à se demander comment ils vont faire pour aller les... pas les dérober, puisque ils les volent pas, mais du moins prendre leurs empreintes, ouais. Pardon. Allez, on poursuit maintenant avec un petit peu ce qu'il y a eu autour du film, hein, parce que c'est le but aussi de ce podcast, c'est de pas d'analyser le film parce que j'en serais incapable. Et puis je pars du principe que le réalisateur, s'il a voulu le faire comme ça et puis écrire le scénario comme ça avec des dialogues comme ça, c'est qu'il avait envie que ça soit comme ça. Moi, je suis pas du métier.
En plus, il le fait vraiment comme il veut, vu que c'est lui qui a fait le bouquin. Après, ouais, il arrange.
Donc, bref. De ce que j'ai pu trouver donc autour du film, c'est que l'importance du train dans le film, hein, qui est filmé sous de nombreux angles, il était indispensable d'utiliser un véritable train en mouvement et non un décor animé. Et donc, mieux encore, il fallait obligatoirement avoir recours à une authentique locomotive à vapeur. Mais ça a posé quand même quelques petits problèmes, parce que premièrement, il s'avéra que le modèle envisagé, hein, de la loco-vapeur n'était pas assez puissant pour tirer toutes les rames. Donc en fait, ils ont pris une locomotive diesel supplémentaire qu'ils ont camouflée en wagon de marchandises, et en fait ça a aidé comme ça à propulser le train. Donc du coup, ça a eu des conséquences. C'est que du coup, le train avait une vitesse beaucoup trop élevée. Parce que Sean Connery, lui, devait tourner plusieurs séquences courant sur le toit des wagons. Et il a été particulièrement sensible à ce problème-là. Parce que...
C'est sûr que si d'un seul coup ça va trop vite, ça
ouais, parce qu'en plus
ça va faire drôle. Hein.
C'est lui qui réalise ces cascades là.
Ouais.
Il n'est pas du tout doublé. Et donc du coup, sur la suggestion de Sean Connery, donc ils ont fait des estimations de la vitesse du train grâce à un hélicoptère qui s'est calé sur la vitesse du train, hein. Et en fait, ils se sont rendus compte que le train allait à 90 km/h au lieu des 55 prévus. Donc ça fait ouais. Et puis bon, quand tu vois que quand il est sur le toit du train, il est pas, il y a pas de sécurité, hein, il est pas attaché. Hein.
Puis avec le coup des ponts, faut réagir plus vite là.
Ouais.
Et ça y est, moi je m'en serais pris. Hein.
Et puis aussi, il y a un truc aussi pour Michael Crichton.
Ouais, parce qu'en fait, donc Michael Crichton, donc il était victime de brûlures. Il y a la locomotive donc qui fut obligée de filmer certaines scènes, donc ça crachait en fait irrégulièrement des petits morceaux de braise et donc ça enflammait ses cheveux.
Ouais, c'est dangereux. Je sais pas si ça a fait pareil aussi dans la loco de la 7e compagnie. Non, je déconne.
Ah non, ça c'est touche pas à ça, petit con.
Ah oui, merde. Et puis je reviens dessus, mais Sean Connery, c'est lui qui a réalisé donc toutes les cascades sur le toit du train.
Toc toc.
À ce moment-là, il a 48 ans quand le film a été fait, et donc il est équipé de chaussures de semelle en caoutchouc et ils ont mis un revêtement spécial sur le toit des wagons pour qu'il puisse pas glisser. Mais il a eu quand même des difficultés à garder les yeux ouverts parce que la fumée et les cendres émises par la loco lui piquaient les yeux. Et puis le fait que aussi le train roule plus vite que prévu. Et il a même failli tomber entre deux voitures. D'ailleurs, ça se voit à l'image, ça n'a pas été coupé. À un moment donné, on voit qu'il va tomber, il se rattrape. Et il continue à monter, mais c'est vrai que c'était une grosse cascade parce que c'est pour moi il y a eu plusieurs prises, mais avec tous les ponts etc. c'est
surtout le coup des ponts qui est impressionnant. Hein.
Allez, on s'écoute un dernier extrait.
Monsieur, il est une vérité reconnue en jurisprudence, c'est que les lois sont créées par l'homme. Et la civilisation humaine, suivant une tradition de plus de 2 millénaires, s'accorde à respecter et à maintenir ses lois pour qu'une communauté débouche sur une société. Car ce n'est que par l'obéissance à la loi que toute civilisation s'élève et se maintient au-dessus du chaos délétère de la barbarie. Donc, pour en venir aux mobiles qui vous ont agi, qu'est-ce qui vous a fait concevoir, projeter et exécuter cet acte, ce vol répugnant?
Je voulais l'argent, monsieur.
Ça va lui coûter 20 ans.
Donc voilà, ça c'était l'extrait quand, Sean Connery, hein, ça y est, j'ai oublié son nom.
Pierce.
Ouais, quand Edward Pierce se fait juger parce qu'il s'est fait choper. Voilà. Blood, on a eu quelques prix.
Oui, alors on a eu le prix Edgar Allan Poe, donc pour le meilleur scénario.
Ok. Ouais, et puis sinon, raconte-nous un peu de ce que tu penses de ce film-là, ce que.
Oh bah c'est un de mes films préférés, enfin j'ai plein de films préférés, hein. J'en ai pas qu'un, hein. Mais lui, je le mets dans mon top.
Ton top 100,
Il y a tellement de films que j'aime bien dans le top 50, quoi, mais enfin bon, bref, c'est un film que j'aime bien, c'est bien simple, ce film-là, là, déjà, rien que pour cette année, je l'ai déjà vu deux fois. Donc, tout le monde ne regarde pas de films, je l'ai vu en juillet, et puis je me suis remis là... dans le mois de novembre, donc je pense pas que...
Mais encore.
Mais encore, bah, j'aime bien l'ambiance, vu que ça se passe dans les années un peu comme Sherlock Holmes, tout ça, comme j'aime bien les Sherlock Holmes. J'aime bien l'histoire parce que ça fait un bon suspense. Tu sais pas comment ils vont se débrouiller pour choper les lingots, quoi, enfin les billets. Et puis tu sais pas si à la fin les flics ils vont réussir à le choper ou pas. En plus, lui à un moment donné, il recroise ceux où il avait dragué la fille. Là, tu te dis merde, si les autres ils le reconnaissent. Il va se faire choper, quoi. En plus, il y a les flics qui étaient pas loin, vu qu'il y avait Willy, justement, qui était là. Quand après, il y a le pote, là, à Guerre, qui dit à Sean Connery, enfin, à Pierce, qu'il y a les flics qui sont là. Donc, ça rajoute un peu de suspense.
Alors, tu fais bien de parler de Willy Languille. Là aussi, l'évasion ouais. qu'on voit dans le film, c'est limite une reconstitution de sa véritable évasion.
C'est lui qui fait le truc.
Non mais... Oui, de quoi, c'est l'acteur qui fait la cascade.
Ouais.
Oui, mais c'est une reconstitution de la véritable évasion qui a eu lieu en 1855.
Ouais, ouais,
pour,
ouais.
Ou peut-être 54, je sais pas combien de temps ils ont mis à préparer ça. Mais ça s'est à peu près passé comme ça.
Bah laisse voilà. quand même, hein, le mec.
Ouais. Donc, quelque chose à ajouter?
Ouais, moi, ce que j'aime bien aussi, je passe du coq à l'âne, c'est quand il y a donc Hagar qui est dans le cercueil avec le chat qui pue, là, et chapeau pour tenir. Enfin, là, c'est un film, hein. Enfin, le mec qui reste, admettons, 10 minutes dans un cercueil avec un chat mort, ça doit pas être tenable, hein.
Ouais. Non, bah sinon, ouais, moi j'aime bien, c'est l'ambiance, hein, comment, merde, ça y est, ah, j'ai oublié...
L'ambiance un peu victorienne.
Ouais, enfin, c'est ça, merci, truc. Époque victorienne, ouais, et puis c'est bien rythmé, en plus avec la musique qui va bien, comme t'as dit, on se demande comment ils vont faire pour copier les clés.
La musique qui va bien
avec
la loco, justement.
Attends,
ouais.
Je finis. Donc, on se demande comment ils vont faire pour choper les clés. Et puis, on voit qu'ils se creusent la tête. Pierce, on voit bien qu'il arrive à s'introduire dans la haute société, on va dire. Puisqu'à un moment donné il fréquente tout le gratin là dans un club, et en fait il fait croire qu'il doit être plein aux as, etc., même quand il drague la fille du directeur
du vieux
de la banque.
Ouais,
il fait croire qu'il est friqué, etc., alors qu'il veut il a peut-être de l'argent parce que suite au précédent braquage, mais du moins c'est un voleur qui réussit à s'introduire dans la haute, quoi. Donc, ouais, ça c'est comment dire double identité, disons. Il fait bien le caméléon. Et puis ouais, c'était ça va. C'est bien rythmé. Et puis le fait que ce soit Sean Connery qui fasse lui-même les cascades, ouais, c'est super bien fait aussi. Sutherland qui joue très bien également. Non, c'est moi, ouais, j'aime bien ce film là, il est plaisant à voir. Les dialogues sont bien, c'est bien joué. Ouais, moi j'aime bien, je passe un bon moment quand je le vois. Surtout qu'en plus là, moi je l'ai chopé en édition, il est sorti en Blu-ray remasterisé. Donc l'image est bien, elle a été traitée pour enlever tout ce qui était poussière, rayures, etc. La colorimétrie est revue, tout ce qui fait qu'un film est remasterisé. Hein. Donc ouais, super bien. Bah voilà, non, je n'ai plus rien à ajouter. On va passer après au générique de fin.
Ben, formidable.
Et voilà, ben, un épisode
de plus.
épisode 25 bouclé.
Bientôt le 30.
Eh oui. merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt dans le prochain numéro. Si vous avez envie, vous pouvez nous laisser des petits brosouf sur PayPal ou Patreon. Toutes les coordonnées sont sur le blog qui est à l'adresse archeociné.ddns.net. Et puis voilà, quoi d'autre à ajouter, Blaude?
Oui, laissez des petits commentaires. Et puis, bon film à tous.
Ben voilà, c'est ce que j'attendais. Allez, ciao, à bientôt.
Salut.
We'll be right back.